en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Personnages, personnalités, caractères, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou invité extérieur de l'Académie présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Le lundi 8 décembre 2003, l'historien Marc Fumaroli évoquait Chateaubriand, la révolution au gré de Chateaubriand. Nous rejoignons la salle des séances.
Je vais donc commencer par donner mon titre qui avait été un peu flottant, si j'ose dire, jusqu'ici. Avant et après, continuité et changement du caractère français dans les mémoires d'outre-tombe. Pendant cette série de conférences, si toutefois je suis bien informé, vous ont été proposés des portraits moraux et politiques de grandes figures historiques. Mais je voudrais aujourd'hui esquisser devant vous le portrait moral et politique de la France, allégorique si j'ose dire, tel que l'a dessiné Chateaubriand en filigrane des mémoires d'outre-tombe. Réécrit après 1830 comme un immense pamphlet posthume contre le régime de Juillet, les mémoires d'un Chateaubriand vieillissant, retiré de la vie publique, émigré de l'intérieur, mobilise toutes les ressources accumulées par l'expérience de leur auteur pour fustiger la morale des intérêts, déjà incarnée par Decazes au début de la Restauration et qui a triomphé avec Louis-Philippe. Ses conséquences prévisibles à long terme, selon le poète, la révolution socialiste. La colère du Tacite du siècle des révolutions s'enracine dans une méditation passionnée sur la longue durée historique du royaume de France et sur la Révolution qui en a résumé et consommé les traits à la fois négatifs et positifs. Elle déploie une prodigieuse galerie de portraits qui donne vie et humanité singulière aux différentes occasions manquées, c'est une expression à mon avis capitale que Chateaubriand utilise à plusieurs reprises, qui ont ôté à la France, au cours de ce tournant historique où elle avait tous les atouts pour prendre la direction morale et politique de l'Europe et du monde, cette possibilité. Entre grandeur et misère, l'ironie noire est la clé de lecture par l'auteur des mémoires de l'époque charnière dont il a été le témoin et l'un des principaux acteurs. L'élan réformateur, si je peux résumer en quelque sorte l'interprétation qu'il donne de ce siècle des révolutions, je vous rappelle que cette expression est de Rousseau, elle se trouve dans les Mille, et Chateaubriand la reprend à son compte. C'est le siècle qu'il a vécu, c'est ce siècle qu'avait prophétisé Rousseau. L'élan réformateur qui a coïncidé avec le règne de Louis XVI aurait pu et aurait dû rendre à la France le poids et l'autorité qui lui revenaient dans les affaires du monde. Mais la décadence de l'ancien régime de cour avait érodé, depuis le honteux traité de Paris de 1763 qui avait liquidé le premier empire colonial français. Le dérapage de la réforme en 1789-1792 a conduit en 3 années à la terreur. Le grand consulat était à la veille de réussir ce possible que les ministres de Louis XVI avaient laissé passer et que la Convention avait noyé dans le sang. La folie finale de l'Empire a gâché et gaspillé la restitution de la stature française inaugurée en 99 par le génie de Bonaparte. La tragédie russe de la Grande Armée, puis les 100 jours et Waterloo ont rétréci de nouveau la grande nation. La Restauration aurait pu encore rendre leur sens originel aux principes de 1789, aux principes réformateurs de 1789, effacer la dérive totalitaire de 92, retenir de l'Empire un État efficace et une armée éprise de gloire. L'aveuglement des Bourbons et de leurs courtisans a gâché cette dernière chance et précipiter la France dans un nouveau cycle de décadence. Elle n'a décidément pas su donner l'exemple d'une synthèse féconde entre l'héritage des libertés aristocratiques et l'avenir de l'égalité démocratique. Le seul modèle d'évolution, et là on reconnaît la terrible amertume, l'âcreté dont parle Tocqueville lorsqu'il écoutait lire les mémoires chez Madame Récamier, le seul modèle révolution que la France ait proposé au monde, c'est une guerre civile qui toujours recommence et qui ne sait que détruire. Le diagnostic historique et politique qu'établissent les mémoires sur les années 89-1815, autour desquelles un formidable crédit sur l'avenir du monde avait été en vain ouvert à la France, est inséparable d'un diagnostic moral sur le caractère national, à la fois dans la longue durée et dans l'éclairage que ce caractère a reçu dans l'épreuve, évidemment, de la Révolution et de l'Empire. Chateaubriand, on l'oublie trop souvent, comme fondateur de l'école romantique, est de formation essentiellement classique. Sa pensée politique est informée par la politique d'Aristote et par l'esprit des lois, même s'il a vu en Rousseau l'interprète génial, l'interprète suprême de ce qu'il appelle l'esprit du temps et de sa pente démocratique. Quant à l'étude des mœurs collectives, on dirait aujourd'hui à la sociologie, sur laquelle s'appuie son analyse politique, elle a pour arrière-fond la topique morale dessinée par Aristote au livre 2 de la rhétorique, qu'il faut compléter par le portrait du magnanime que le Stagirite a tracé dans l'éthique à Nicomaque. Ces textes lui étaient familiers depuis le collège, soit directement, soit à travers l'empreinte qu'ils avaient laissée dans les grands classiques latins, qu'il s'agisse de Cicéron, de Tite Live ou de Tacite. Cette topique s'oppose, trait pour trait, naturellement, à la morale des intérêts anglaises, auquel l'auteur des mémoires attribue le nivellement de l'humanité qui vient. Dans la rhétorique, Aristote fait d'abord un tableau circonstancié des passions humaines. Colère et calme, amour et haine, crainte et honte, générosité, reconnaissance et ingratitude, pitié et indignation, envie et émulation. Il les montre ensuite à l'œuvre selon les trois âges de la vie, jeunesse, vieillesse, maturité, et selon les deux conditions d'autorité, celle du noble et celle du riche. Heidegger a pu dire de ces lieux communs et de leur exégèse par Aristote qu'ils formaient la plus profonde description qui ait jamais été faite de la vie quotidienne de l'homme en société. Dans l'éthique à Nicomaque et dans les seconds analytiques, Aristote quitte le point de vue descriptif, si j'ose dire, qu'il garde dans la rhétorique, et il s'attache à définir une forme d'humanité morale supérieure indépendamment de l'âge et indépendamment de la condition. Cette grandeur d'âme, cette magnanimitas, ou cette mégalopsychia, n'est incompatible ni avec la jeunesse, ni avec la noblesse sociale, mais elle ne se confond ni avec l'une ni avec l'autre. Elle peut être active chez l'homme d'État et chez l'homme de guerre ou contemplative chez le philosophe, chez le sage. Elle peut être généreuse et vertueuse, mais elle peut être aussi dangereuse et vicieuse. Elle se tient toujours, de toute façon, héroïquement au-dessus du destin et de la pusillanimité commune. Sur cet arrière-fond classique, et en prenant sur lui le point de vue moral du magnanime généreux, assise et origine naturelle du noble au sens social, il faut toujours, je crois, bien distinguer entre la noblesse au sens social, qui est définie dans la rhétorique, et la noblesse au sens moral, et qui n'a rien à voir avec la décence ni avec la condition, qui est définie dans l'éthique à Nicomaque. Eh bien, sur cet arrière-fond classique, Chateaubriand décrit la longue durée du caractère français comme marquée, pendant 14 siècles, comme il dit, par sa noblesse. Classe d'hommes, selon les termes d'Aristote, amie de la gloire, je cite, et ambitieuse d'augmenter, je cite, l'honneur des ancêtres. Comme Aristote, il admet que cette vocation des nobles à accroître l'honneur ancestral peut soutenir ce que Tocqueville, comme lui, appelle de la même expression de grandes existences vertueuses. Mais elle ne suffit pas à les perpétuer dans la même famille. D'une génération à l'autre, elle peut dégénérer. Les races bien douées, écrit le Stagirite dans la rhétorique, finissent par en venir aux mœurs les plus insensées. De son côté, dans une phrase célèbre des mémoires, Chateaubriand résume les phases de la décadence de la noblesse française, passée du stade des vertus chevaleresques à celui des privilèges, puis à celui des vanités. Talleyrand, dans le panorama social et moral des mémoires, est l'archétype du dernier état de cette corruption du noble en homme de cour, intrigant et cynique, déshonoré par l'habitude de la trahison et de la vénalité. Mais cette dégénérescence de la noblesse de race, dont les moralistes tels que Saint-Simon et Chamfort avaient, avant lui, étaient les impitoyables analystes, n'exclut pas les exceptions personnelles. La plus éclatante dans les mémoires est celle de Malesherbes, le magistrat éclairé, modéré et magnanime jusqu'au sacrifice, dont Chateaubriand est très fier d'être devenu, par le mariage de son frère, le petit-fils par alliance et, à certains égards, le disciple. À un Mirabeau, les mémoires attribuent une magnanimité qui, nonobstant ses vices, aurait pu sauver la monarchie si une mort prématurée n'avait pas éliminé le tribun du jeu politique. Cette magnanimité n'est pas réservée à la naissance. Chateaubriand n'hésite pas à la reconnaître et à la célébrer, par exemple, dans le jeune journaliste plébéien et républicain Armand Carrel, méprisant la mort, méprisant l'argent, ignorant l'envie, et tué en duel en 1834 par le patron de presse, Émile de Girardin. La Révolution aurait pu et aurait dû entraîner la relève des vices de l'aristocratie de cour par les vertus de la France profonde, plébéienne et provinciale. La Terreur a donné le pouvoir aux classes dangereuses de Paris, ce qui évidemment est exactement l'inverse. Pourtant, la relève a eu en partie lieu. Chateaubriand ne marchande pas son admiration aux armées populaires de la Convention et de l'Empire, en qui il retrouve les traits de jeunesse et de générosité de l'ancienne chevalerie. Il ne refuse pas dans les mémoires, pas plus que dans son premier écrit publié, Laissé sur les Révolutions, une grandeur sombre et terrible, même aux chefs jacobins et, naturellement, aux farouches guérilleros paysans de la chouannerie. Dans la prodigieuse énergie éveillé dans les deux camps par la guerre civile, il discerne, par opposition aux affadissements et aux perversités qu'il prête au XVIIIe siècle, comme une reviviscence héroïque de la France des guerres de religion du XVIe siècle. Pour rassembler et pourvoir d'une même volonté les deux moitiés de cette France déchirée, mais aussi retrempée de part et d'autre par l'épreuve de la guerre civile, il eût fallu un Henri IV. On ne l'a trouvé ni chez le premier consul, puisqu'il a renoncé à l'être en assassinant le duc d'Enghien, ni chez Louis XVIII, ni chez Charles X, et cela, ce serait une analyse évidemment beaucoup plus approfondie, mais pour Chateaubriand, c'est là la clé du problème. Henri IV n'est pas apparu. D'où l'importance accordée dans les mémoires au premier consul qui a véritablement été pour lui, pendant au moins trois ans, l'Henri IV attendu. Dans la personne de Bonaparte, surgit comme lui-même de la périphérie du royaume, des profondeurs de la province, au beau milieu de la guerre civile française, Chateaubriand voit se résumer la dévolution aux homines novi de la magnanimité presque disparue des rangs de l'aristocratie de cour. Bonaparte était à même de stabiliser la Révolution et de rassembler les deux Frances profondes, libérées en quelque sorte par la crise de 89-95. Il avait à la fois la grandeur d'âme guerrière et la grandeur d'âme philosophique et politique, capable de rallier à elle toutes les grandeurs de la nation. Il aurait pu fonder une nouvelle race légitime, et Chateaubriand, même sous la Restauration, déclare qu'il se serait rallié à cette cinquième race, s'il n'avait pas assassiné le duc d'Enghien, et porté la France classique à la tête du monde. Nouvelle Alcibiade, il a préféré mettre sa magnanimité au service d'une aventure personnelle qui, par deux fois, en 1814 puis en 1815, a brisé les reins d'une France nouvelle qui aurait pu tirer le meilleur parti du faux pas révolutionnaire. Après Napoléon, néant. Il était trop tard pour que Louis XVIII, qui n'en avait d'ailleurs ni la générosité ni la vision, puisse jouer le rôle d'Henri IV. Les passions généreuses, humiliées et déçues, avaient de nouveau fait place dans le caractère national aux passions basses, dont la plus dévorante avait été décrite par Aristote sous le nom d'envie, dont il avait montré qu'il n'est jamais si âpre qu'entre égaux, et dont le nom moderne est la passion de l'égalité. La dérive absolutiste de la Restauration avait conduit à un échec, et la passion de l'égalité, après 1830, avait trouvé un ressort nouveau dans le gouvernement des riches et le règne de l'argent. Aristote, au livre 2 de la rhétorique, bien avant Balzac et Chateaubriand, qui sont si souvent d'accord, quand on lit de près la comédie humaine, on est frappé par la coïncidence des points de vue à toute mémoire d'outre-tombe, avait décrit les mœurs sous ce type de gouvernement, sous lequel la richesse, je cite, est en quelque sorte le moyen d'appréciation de toutes les autres choses, et pour cette raison, tout semble pouvoir être acheté. Le grand morceau de bravoure des mémoires sur l'argent est une amplification de l'anecdote rapportée dans le même chapitre par Aristote. Je cite, « De là, cette réponse du poète Simonide sur les sages et les riches, à la femme de Hiéron qui lui demandait lequel valait mieux, de devenir sage ou de devenir riche. « Riche, dit-il, car on voit les sages passer leur vie à la porte des riches. » Le chapitre se conclut sur un portrait du nouveau riche, dont l'arrogance, la prétention à occuper des charges publiques qui ne lui conviennent pas, accentue les défauts des anciens riches. La relève de la vieille aristocratie, corrompue par des homines novi à vocation noble, a donc échoué. Elle est remplacée par l'usurpation des nouveaux riches qui suscitent l'indignation, l'envie et la révolte des laissés pour compte. Disparaissent les derniers liens qui, malgré tout, rattachés au principe d'une noblesse de naissance et à l'idéal d'humanité qu'elle symbolisait, l'honneur préféré à la richesse, l'émulation préférée à l'envie, à la possibilité de grandes existences magnanimes et au respect qu'elles inspiraient. Le Chateaubriand des mémoires, qui s'ingénie après le Chateaubriand des études historiques, a démontré que la noblesse d'épée française a gravé depuis toujours la passion de la liberté dans le caractère national, s'attarde toujours davantage à discerner, inscrite dans ce même caractère, dans la longue durée, et encouragée par ses rois, la passion dure, jalouse et méchante de l'égalité. Dans le livre 2 de la rhétorique d'Aristote, le portrait de la jeunesse a plus d'un point commun avec celui de la noblesse de race dans sa fleur, et même avec celui du magnanime de l'éthique à Nicomaque. Le portrait de la vieillesse est celui d'une inversion des qualités généreuses de la jeunesse, analogue à celle qui fait dégénérer si aisément, d'une génération à l'autre, la noblesse de race. De la jeunesse, Aristote fait ce mémorable portrait qui ne va plus cesser de nourrir la poésie et le roman pendant le Moyen-Âge, mais qui inspire encore au XVIIIe siècle Vico et Rousseau, et qui est la semence de cette merveilleuse trilogie de l'histoire des 13 de Balzac. Les jeunes gens, écrit Aristote, sont susceptibles de désirs ardents et capables d'accomplir ce qui fait l'objet de ces désirs. Ils sont changeants et promptement dégoûtés de ce qui les a passionnés. Ils sont enclins à la colère et à l'emportement, toujours prêts à suivre leurs emportements et incapables de dominer leur fureur. Par amour-propre, ils ne supportent pas qu'on tienne peu de compte de leur personne. Ils ont le goût des honneurs, ou plutôt de la victoire, car la jeunesse est avide de supériorité et la victoire en est une. Ils tiennent plus à ces deux avantages qu'à celui des richesses, ou plutôt, ils n'ont aucunement l'amour des richesses, n'en ayant pas encore éprouvé le besoin. Ils ne sont pas portés au mal, ils ont plutôt un bon naturel, n'ayant pas encore eu sous les yeux beaucoup d'exemples de perversité. Ils sont confiants, n'ayant pas souvent été trompés. Ils sont enclins à l'espérance. Cela vient de ce que la nature donne de la chaleur à la jeunesse, comme aux gens embreuvés de vin, et en même temps de ce qu'ils n'ont pas encore été éprouvés par la mauvaise fortune. Ils vivent surtout de l'espérance, car l'espérance a trait à l'avenir et le souvenir au passé. Ils sont plus braves qu'on ne l'est à un autre âge, car ils sont plus prompts à s'emporter et ont bon espoir. Ils ont l'âme élevée parce qu'ils n'ont pas été rabaissés par la pratique de la vie et qu'ils n'ont pas subi l'épreuve du besoin. De plus, rien n'élève l'âme comme de se croire digne de grandes choses. Or, cette opinion est propre à celui qui a bon espoir. Il se détermine plutôt par le beau côté d'une action que par son utilité. Il se détermine plutôt par leur caractère moral que d'après le calcul. Et le calcul tient à l'intérêt et la vertu à ce qui est beau. Ils ont le goût de l'amitié et de la camaraderie plus que les autres âges, parce qu'ils se plaisent à la vie commune, que rien n'est encore apprécié par eux au point de vue de l'intérêt, par conséquent, leurs amis non plus. Quand ils causent un préjudice, c'est par insolence, non par méchanceté. Ils sont enclins à la pitié, parce qu'ils supposent toujours que l'on est honnête et meilleur. Ils aiment à rire, et c'est pourquoi ils plaisantent, car la plaisanterie est une impertinence polie. À l'état donc naïf, spontané, naturel, la jeunesse résume en elle les dispositions naturelles de l'homme à la noblesse, exposé à être vite fané par l'expérience des désillusions et de la pratique de la vie. Dans les mémoires, c'est cet état fécond de jeunesse et d'ivresse. C'est ce bouquet de passions généreuses à jamais associé pour leur auteur d'outre-tombe aux murs et aux mailles du vieux château de Combourg qui sont l'objet d'une violente et cruelle nostalgie. Ils se confondent avec ce qu'il y a de meilleur dans le caractère national français chaque fois qu'il révèle sa sève naturelle avant d'être faussé et desséché par ce qu'Aristote appelle la pratique de la vie et que Rousseau appelle la corruption de la société. Mais comme le vico de la Prélusio sur la méthode des études de notre temps, et comme le Rousseau de l'Émile, Chateaubriand, dès l'essai sur les révolutions et le génie du christianisme, attribue à la jeunesse moderne un flétrissement prématuré, inconnu de la jeunesse antique et imprévu par Aristote. C'est ce qu'il a appelé le vague des passions, et qu'il se reproche dans les mémoires d'avoir décrit de façon trop séduisante et trop contagieuse dans René, alors que son intention était de le dénoncer. Avant même toute expérience, donc, selon ce vague des passions, quand les passions généreuses sont encore en bouton, par la multiplication sous leurs yeux d'exemples pervers, par la morale des intérêts recommandés d'en haut et par le ricanement du doute sénile appliqué à tout, les jeunes gens se désabusent de tout et deviennent vieux en esprit bien avant de l'être par le cœur et le corps. Le mort saisit le vif et l'hiver moral, le printemps des âmes. La jeunesse naturelle, l'espérance des peuples et du monde, n'existe plus qu'au passé, au titre de souvenir, en voie d'extinction, comme le sens noble de l'honneur, comme les grandes existences magnanimes, qui n'étaient rien d'autre que la fidélité aux dons et aux grâces de la jeunesse, jusque dans l'expérience et le calme de la maturité. Avec l'échec de la Révolution et de l'Empire, le fil qui reliait la France à sa souche généreuse et qui la rendait, ou qui l'avait rendu capable à plusieurs reprises de régénération morale et politique, ce fil a été coupé. l'air universel de l'envie et de la haine calculatrice entre riches et pauvres a été inauguré par la terreur, par la retraite de Russie et Waterloo, dans la nation qui était à même, peut-être la seule, d'éviter au monde cette seconde chute et un âge sombre qui repousse et qui retarde même la rédemption chrétienne. Et voilà comment je vois, ce n'est pas la mienne, mais comment je vois l'analyse que Chateaubriand a faite de son époque et les conclusions qu'il en a tirées. C'est une sorte de physionomie de la France passée aux rayons X. Merci.
C'était l'historien Marc Fumaroli, invité de l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 8 décembre 2003. Marc Fumaroli présentait une communication sur Chateaubriand, La Révolution française au gré de Chateaubriand. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement sur Canal Académie. D'ailleurs, après une courte pause, nous allons poursuivre notre réflexion, notre évocation de Chateaubriand en compagnie d'Hélène Renard qui va évoquer quelques dates importantes.
Vous écoutez Canal Académie.